là, on vient aux chroniques de l'Amérique trumpienne, aux chroniques de l'entropie et les chroniques de ce samedi 26 avril qui va être rediffusé le 30 avril 2025 de 12h à 13h30. Mmh. Alors, c'est l'illibéralisme trumpiste. Pendant bien longtemps, 20 ans ou plus, on a pris l'habitude de qualifier de populisme les idées et les méthodes politiques de l'extrême droite et pas seulement la gauche a été régulièrement qualifiée de populiste aussi. Mmh. Cela dit, il est une nouvelle catégorie de lecture de l'évolution des cultures politiques mondiales qui a vu le jour à la fin des années 90 et qui propose une lecture plus fine du phénomène actuel auquel nous assistons actuellement, de la Pologne des frères Kozelski à la Hongrie de Viktor Orban, en passant par le Brésil de Jair Bolsonaro jusqu'à l'Amérique de Donald Trump. Ce concept, c'est l'illibéralisme. Et c'est à partir de cette notion que l'historien Stephen Hague, professeur de la Sorbonne Université de New York, propose de relire les années Trump et le trumpisme non pas comme un effet de mode idéologique ou un accident de l'histoire, mais plutôt dans la continuité historique des États-Unis comme un événement qui aurait été longuement anticipé, préparé et annoncé. Alors le livre de Stephen Hague s'appelle « Illiberal America, a History ». L'Amérique illibérale, une histoire. Mmh. Alors il est paru en 2024, mais il n'existe pas en tradition française.
Ah, c'est bien dommage. Bon.
Mais Olivier Morel nous a fait un résumé, ce qui permettait au moins de connaître cet ouvrage et ses références. Cet ouvrage permet de comprendre, par exemple, comment le mépris récent vis-à-vis d'une décision de la Cour suprême par l'administration Trump n'est certainement pas un événement isolé dans l'histoire des États-Unis. Et on vous conseille d'écouter maintenant les chroniques de l'Amérique trumpienne d'Olivier Morel ou Fait et Jet de Donald Ier, roi, voire plutôt empereur de l'entropie.
Question de trois femmes dans la chronique d'aujourd'hui. Je vais les nommer pour commencer. La première femme, c'est Sarah Inama. La deuxième femme s'appelle Jennifer Vasquez Soura. Et la troisième, dont le nom dira peut-être quelque chose à quelqu'un, parce que les deux premières sont des personnes quasiment anonymes. Elles le sont peut-être de moins en moins maintenant. En tout cas, la troisième s'appelle Harriet Tubman. Et Harriet Tubman est une icône de l'histoire des États-Unis. Je vais revenir sur Harriet Tubman dans un moment. Mais je vais commencer par Sarah Inama. Sarah Inama est une professeure des écoles dans l'Idaho, un état du centre des États-Unis, un état très agricole, très rural donc, qui n'est pas aussi peuplé que peut l'être la Californie ou l'état de New York, bien sûr, on n'en parle pas aussi souvent. Sarah Inama enseigne l'histoire et les civilisations du monde dans une salle de classe depuis plusieurs années, laquelle salle de classe est ornée d'un poster qu'elle a placé sur les murs pour éduquer en inspirant les étudiants, comme on peut le supposer. C'est un de ces posters avec une de ces inscriptions qu'on trouve dans de nombreuses salles de classe de par le monde, dans toutes les cultures. L'école est un lieu d'interprétation, de lecture, d'ouverture au monde, et aussi un lieu qui engage quelque chose que, d'ailleurs, le pape François avait exprimé dans une lettre qu'il a publiée le 17 juillet 2024. Une très belle lettre sur la littérature, sur l'importance de la littérature. Et c'est une lettre, je dis qu'elle est très belle parce que c'est une lettre qui parle à tout le monde. Le pape dit, l'une des clés de l'exposition à ce que la littérature engage, et ce n'est pas seulement la littérature, c'est donc aussi la fiction, qu'elle soit celle du cinéma, du théâtre, ou de la musique qu'on aime écouter dans la voiture ou pendant qu'on prend la douche. Et c'est cette idée qui est en fait aussi la clé de voûte de l'éducation, de la recherche, de l'université. C'est cette idée de vivre des expériences qui sont les expériences de l'autre. Quand on lit un texte littéraire, quand on va voir un film, eh bien on entre dans la psychologie de quelqu'une, de quelqu'un d'autre, et on a une perception qui est celle que le film nous donne, que la chanson nous donne, que le texte littéraire nous donne, que l'œuvre d'art en général nous donne, qui est la perception de quelqu'un d'autre. Donc en gros, on a une perception par procuration, par transfert, par exposition, qui n'est pas forcément notre perception. Et ça nous parle. Eh bien, c'est ça que fait l'école aussi. Et donc, Sarah Inama, pour revenir à elle, cette professeure d'une école primaire de l'Idaho, au centre des États-Unis, eh bien, elle a une sorte d'œuvre d'art au mur, ce qui est un poster qui a été créé par un designer et un artiste. Et le poster, je dois le décrire un peu. Sur le poster, il y a écrit « Everyone is welcome here ». Tout le monde est bienvenu ici. Avec le mot « everyone », le mot « tout le monde, écrit avec des lettres de plusieurs couleurs. Et sous chaque mot de cette phrase, « Everyone is welcome here », « Tout le monde est bienvenu ici », il y a des photos d'une dizaine de mains avec un cœur dans la paume. Et chaque main, chacune de ces 10 mains, a une couleur différente, une qualité de pigmentation différente. Il y a quelques semaines, le principal de l'école a approché la professeure, Madame Inama, et on dit à la professeure que ce poster qui dit « Tout le monde est bienvenu » avec 10 mains de couleurs différentes, que ce poster devait être retiré du mur. Alors, la professeure n'a pas trop bien compris pourquoi. Dans un premier temps, elle s'est exécutée, comme on dit en français. Elle s'est exécutée. Et puis, elle a réfléchi et s'est demandé ce que voulait dire cette interdiction d'avoir ce poster au mur. Cette poster encore qui dit, encore une fois, « Tout le monde est bienvenu ici avec 10 mains de couleurs différentes ». Donc elle a demandé des comptes. Et on lui a expliqué que, et je cite, « que les enseignants ne sont pas autorisés à avoir dans les salles de classe des signes qui montrent leurs opinions politiques et leurs opinions personnelles ». Ce qui veut dire que, un poster qui dit, et je dis encore une fois, « Everyone is welcome here », que tout le monde est bienvenu ici, est un message considéré comme politiquement engagé. Donc ce qu'a fait la professeure de cette école de l'Idaho, c'est qu'elle a réuni le bureau de l'école. Donc elle est passée au-dessus de la tête du principal, elle a consulté le bureau de l'école. Le principal a considéré ceci comme un acte d'insubordination et Madame Inama a perdu son emploi. Et il lui a été dit, lorsqu'elle a demandé « mais j'ai perdu mon emploi parce qu'il y avait ce poster sur les murs et parce qu'il y avait cette insubordination ». Mais elle a parlé de ce poster aussi. Et on lui a répondu « oui, vous avez perdu votre emploi ». Et ça a été confirmé. Parce que dans l'environnement actuel, ce message était, je cite, « controversé ». Le message « tout le monde est bienvenu ici » a été jugé controversé dans l'Idaho. Alors, on est en train de parler d'une situation qui, évidemment, est liée très explicitement, puisque c'est un message controversé aujourd'hui dans une école de l'Idaho, quand on est une professeure d'école primaire, d'avoir un message qui dit « tout le monde est bienvenu ici, tout le monde est bienvenu », comme je le disais tout à l'heure, en citant la très belle lettre sur la littérature du pape François, qu'on peut adopter le point de vue de l'autre, on peut comprendre le point de vue de l'autre, sans être forcément en complète adhésion, d'ailleurs, avec toutes les valeurs et toute la culture de l'autre. Mais au moins, le but de la littérature, du cinéma, de la musique, des arts en général, mais aussi le but de l'éducation, c'est justement de s'exposer au regard, aux opinions, aux idées, aux valeurs, à la culture, à la religion de l'autre. J'ai mentionné un leader religieux, bien sûr, le pape François est catholique. J'aurais pu mentionner n'importe quel autre leader religieux. Et d'ailleurs, la lettre du pape sur la littérature cite des auteurs, comme par exemple Jean Cocteau ou Paul Celan. Paul Celan, le poète juif qui écrivait en allemand et qui a été persécuté par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, le pape cite des auteurs qui ne sont pas à proprement parler catholiques. Et il fait en cela un geste qui est celui qu'il prône lorsqu'il dit « il faut lire ». Il faut lire des textes littéraires. Je suppose aussi, c'est pour ça qu'on écoute la radio. On écoute la radio aussi souvent pour être exposé aux opinions, aux idées, aux valeurs, à la culture des autres. C'est ça, vivre. Et d'ailleurs, la culture, c'est ça. La culture, ça se définit très précisément dans cette capacité d'écoute, d'adoption et d'embrasser, au fond, des systèmes de valeurs, des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Je parle de tout ceci parce que, évidemment, on parle du climat aux États-Unis quand on parle de ça. Mais il y a un historien qui s'appelle Stephen Hahn, qui est professeur à l'université de New York aux États-Unis, la fameuse université NYU, qui vient de publier un livre qui fait grand bruit dans la communauté historienne, mais qui a été quelque peu médiatisé récemment, parce qu'il parle en vérité des véritables racines du trumpisme. Il s'intéresse plus particulièrement au fait que dans l'époque récente, on s'est demandé véritablement si le trumpisme, si ce qui s'est passé à partir de l'été 2015, lorsqu'en juillet, M. Trump annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour la première fois, il est élu en 2016, il y a une grande incrédulité qui domine à ce moment-là, de grandes fractions de la population américaine pensent que c'est une farce. D'ailleurs, il y a des journaux qui vont refuser de traiter de la candidature de Trump dans la rubrique politique pour la placer dans la rubrique people, comme on dit en France. Et bien sûr, c'était une candidature très sérieuse et il a été élu. Alors, L'historien Stephen Hahn écrit un livre qui s'appelle, pour être précis, publié en 2024, il y a quelques mois, donc chez Norton & Company. Ça n'a pas été traduit en français. Ça s'appelle « Illiberal America, a History ». Ça veut dire « L'histoire de l'Amérique illibérale ». Voilà, illibérale. Et qui part du postulat qu'en vérité, loin d'être un accident de l'histoire, le Trumpisme, et il parle du Trumpisme d'ailleurs, plus que de Trump, le Trumpisme est en vérité à inscrire dans une certaine continuité de l'histoire des États-Unis. Et c'est dans cette continuité qu'il faudrait comprendre peut-être le côté anecdotique de la manière dont Sarah Inama a été exclue de son école et a perdu son emploi il y a quelques jours. Alors qu'est-ce que c'est ce concept ? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, Stephen Hahn est d'ailleurs aussi un spécialiste de cela. Il a écrit sur le Sud populiste, par exemple. Qu'est-ce que c'est le Sud des États-Unis, qui est cette région qui a été marquée par l'esclavagisme, comme une région où, eh bien, le populisme à l'américaine trouve ses racines. Il a aussi écrit sur l'histoire rurale des États-Unis. C'est la raison pour laquelle aussi je voulais commencer en parlant non pas de New York ou de Los Angeles ou toujours les mêmes villes et les mêmes États, non, d'un État rural des États-Unis, l'Idaho, comme l'État de l'Indiana où je vis est un État rural. Il s'intéresse donc d'une certaine façon à cette histoire des marges des États-Unis qui sont en fait aussi au cœur de l'histoire des États-Unis. Parce que c'est aussi l'histoire des marges des États-Unis qui a fait le succès politique de Donald Trump. Donc cet historien Stephen Hahn, qui est encore une fois spécialiste de l'histoire rurale, de l'histoire du populisme, de l'histoire du sud des États-Unis, du sud esclavagiste des États-Unis, il fait l'hypothèse que il n'y a rien d'accidentel dans la victoire de Donald Trump. Et il isole un certain nombre de facteurs qui, je vais les énoncer, vont définir pour lui ce qu'il appelle non plus l'Amérique populiste. Ça n'est plus le concept qui a été en vigueur depuis une vingtaine d'années du populisme, mais c'est la notion d'une idéologie illibérale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une idéologie illibérale ? Et pourquoi, d'après Stephen Hahn, les États-Unis seraient un pays toujours illibéral et qui a toujours été illibéral depuis très longtemps, depuis ses fondations peut-être. Il prend un certain nombre d'exemples. Et l'un des premiers exemples auxquels il se réfère dans son travail, c'est le chef d'État qui est la figure la plus souvent citée par le président des États-Unis actuel, par Donald Trump, comme son inspiration, comme son héros idéologique. Et ce président des États-Unis, qui était le 7e président des États-Unis, il a été élu président des États-Unis en 1829, il a fait 2 mandats jusqu'à 1837. Et ce président des États-Unis qui a beaucoup influencé les idées, la vision politique de Donald Trump a fait revenir son portrait dans la Maison Blanche, c'est Andrew Jackson. Or, Andrew Jackson est ce président qui est justement connu pour avoir, dans les livres d'histoire, il a laissé une trace funeste, qui est le président de la piste des larmes. Il est le président qui a procédé dans les années 30 du 19e siècle à la déportation des Amérindiens. Il a fait déporter en particulier les Indiens Cherokee de la Géorgie. Après avoir attribué des terres géorgiennes à des Américains blancs, il a organisé la déportation forcée avec des troupes du peuple Cherokee au-delà de la rive occidentale du Mississippi. Au cours de cette déportation funeste, 4000 Cherokees, c'est-à-dire 25% de la population Cherokee déportée, a péri. Alors, ce qui est très important pour l'historien Stephen Hahn dans cette histoire funeste du 7e président des États-Unis, Andrew Jackson, qui était planteur et propriétaire d'esclaves lui-même, qui était un des survivants de la guerre de 1812, c'est-à-dire la guerre que les États-Unis ont menée contre les Canadiens, qui leur a permis de gagner une partie du Canada. Et on entend déjà quelques échos peut-être à Donald Trump, qui a, dès son arrivée à la Maison-Blanche, signalé que le Canada, après tout, pourrait être le 51e État des États-Unis. Andrew Jackson qui est donc connu pour avoir fait voter ce qu'on appelle en anglais le Indian Removal Act, c'est-à-dire la loi qui procède au déplacement, removal, des Amérindiens des États-Unis. C'est le terme officiel, hein, Indian Removal Act, la loi sur le déplacement des Indiens. Je cite évidemment une traduction. Andrew Jackson attire l'attention de l'historien Stephen Hahn, qui s'intéresse à l'histoire de l'illibéralisme américain, lorsque Stephen Hahn souligne le fait que le président Andrew Jackson avait fait l'objet, pour cette loi, d'un jugement négatif de la Cour suprême. Ça veut dire que la Cour suprême des États-Unis avait considéré la loi de déplacement forcé des Indiens de Géorgie en particulier et d'autres régions des États-Unis, la Cour suprême avait considéré que c'était anticonstitutionnel. Or, qu'avait fait Andrew Jackson ? Eh bien, il avait procédé au déplacement des Amérindiens en faisant fi de la décision de la Cour suprême. Alors ceci est un point qui marque cette notion d'illibéralisme, d'après l'historien Stephen Hahn. Mais si on veut continuer et explorer les racines de cet illibéralisme à l'américaine, eh bien il y a un autre chapitre de son livre qui traite du McCarthyisme, c'est-à-dire la fameuse terreur rouge qui fait qu'au cours des années 50, le sénateur McCarthy a mis en place une commission parlementaire, comme on pourrait l'appeler en français, donc une commission au sein du Congrès des États-Unis, pour procéder à des interrogatoires et à des poursuites, déclencher des poursuites contre les personnes suspectées, et en particulier les employés du gouvernement des États-Unis suspectés de sympathie communiste à l'époque donc de la guerre froide. Et tout ceci avait été mis en place par le sénateur McCarthy, flanqué d'une équipe de jeunes loups, de jeunes juristes ambitieux, dont Roy Cohn, qui était le mentor de Donald Trump. Et le McCarthyisme est connu dans l'histoire pour être évidemment cette commission parlementaire qui va dessiner des cibles sur les personnes jugées communistes ou suspectés de l'être. On sait comment tout cela va terminer. Il va y avoir des exécutions, il va y avoir des condamnations, et il va y avoir un très grand nombre d'excès et d'abus qui, encore une fois, ont laissé leurs traces dans l'histoire. Ceci pour dire, et c'est le point que souligne cet historien, qu'il y avait évidemment une démarche d'illégalité ou d'anticonstitutionnalité qui était logée dans cette notion de chasse aux communistes aux États-Unis, puisque le premier amendement de la Constitution des États-Unis garantit la liberté d'expression. Et que d'exprimer des vues aussi outrageantes et insupportables soient-elles pour quiconque, qui sont des points de vue, après tout, des points de vue politiques, entrent dans le cadre de la liberté d'expression. Et pourtant, les commissions d'enquête de McCarthy ont pu procéder à toutes sortes d'interrogatoires et avec toutes sortes de visées qui, bien sûr, ont scandalisé une partie de l'Amérique et le monde. Et ça, c'est un autre marqueur de l'illibéralisme. Donc, si on résume, on a le déplacement forcé des Amérindiens avec un jugement défavorable de la Cour suprême. On a le McCarthyisme. Et puis, dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre, autre exemple utilisé par l'historien Stephen Hahn, c'est l'internement forcé des citoyens japonais résidant aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci, et c'est très important, voilà un autre marqueur de l'illibéralisme, sans véritable procédure judiciaire. C'est-à-dire que les Japonais, les citoyens japonais résidant aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le Japon étant en guerre contre les Alliés, le gouvernement américain de l'époque a jugé bon d'interner les Japonais, notamment en Californie, dans des camps spécialisés pour les Japonais, en dépit de toute règle de droit qui consistait en particulier à opérer ce qu'on appelle « due process » aux États-Unis, c'est-à-dire un procès légal en bonne et due forme. Si on interne les gens, s'il y a une privation de liberté, il faut que la loi s'applique et qu'une enquête ait lieu. Alors ça marque cette notion d'illibéralisme. J'ai cité trois exemples de ça, mais je pourrais en citer un quatrième. Donc après avoir cité Andrew Jackson et le déplacement forcé des Amérindiens qui était illégal et inconstitutionnel, et M. Jackson a ignoré la décision de la Cour suprême, après avoir parlé du McCarthyisme dans les années 50 ou de l'internement des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien on pourrait parler de l'incarcération de masse qui aux États-Unis frappe particulièrement, massivement, les pauvres, les immigrés et les personnes de couleur. Est-ce qu'il est possible de considérer que cette dynamique culturelle et historique appartient aussi à tout un spectre de décisions politiques qui favorisent cette incarcération de masse. Donc on définit ici, d'après l'historien Stephen Hahn, on définit à travers tout ceci l'illibéralisme. Alors qu'est-ce que c'est l'illibéralisme ? Avec ces 3 ou 4 exemples, j'ai isolé quelques critères. En particulier, il y a le critère de la répression. Une répression exercée de façon excessive, avec une érosion des libertés fondamentales. En fait, le maccartisme laisse une trace dans l'histoire, justement parce que c'est une érosion des libertés fondamentales. Ce sont des procédures qui sont très inquisitoriales, où on force les gens à avouer des choses qui relèvent en vérité de la liberté d'expression. On a ce système d'intrusion dans la vie privée et de forcer des citoyens d'un pays à avouer des choses qui ne sont pas forcément des choses extravagantes. Oui, je reçois un journal qui est édité par un groupe de gauche, par exemple. C'est un des moments du maccartisme. C'est une dame, simple employée, secrétaire d'une branche du gouvernement fédéral, qui était suspectée d'appartenance au communisme parce qu'elle était abonnée à un magazine qui était la propriété d'un propriétaire de gauche. Donc, une érosion des libertés individuelles. Dans le cas du maccartisme, c'était un peu ça. Il y avait ça. Il y avait ce facteur parmi d'autres. Mais il y a aussi un autre point, une autre caractéristique de l'illibéralisme, c'est l'ignorance routinière des droits constitutionnels. C'est-à-dire la façon dont, sous Andrew Jackson, 7e président des États-Unis entre 1829 et 1837, le droit constitutionnel est ignoré. On a aussi une pratique qui consiste à limiter les protections que l'État offre aux acteurs privés, aux individus. On a des formes de népotisme et des élections qui sont marquées également par les limitations, c'est-à-dire qu'on limite les droits et l'accès au vote. Donc on voit en quelque sorte le changement de paradigme. C'est qu'en d'autres temps, on aurait parlé du populisme de Donald Trump et du populisme américain. Là, on parle de l'illibéralisme, c'est-à-dire l'idée au fond, et c'est un peu ça qui va dominer les régimes politiques qui se reconnaissent sans doute dans cette description de l'évolution politique du monde. Quand on parle d'illibéralisme, on parle de la Pologne de Kaczynski, on parle de la Hongrie de Orban, on parle du Brésil de Bolsonaro et on parle aussi de l'Amérique de Donald Trump, où au fond, il y a des idéologues, des intellectuels autour de ces acteurs politiques. C'est le cas notamment autour de Orban, qui va être un des premiers à mettre en place ceci autour de 2014. L'idée qu'au fond, la démocratie dite libérale, c'est-à-dire libérale au sens où elle protège les libertés, les droits fondamentaux, les droits humains, les droits de l'homme, comme on dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien tout ça, c'est juste une idéologie parmi d'autres et un mode de gouvernement parmi d'autres. Alors je parle de tout ceci parce que Andrew Jackson est une figure qui est un mystère aussi dans l'histoire des États-Unis parce que cet historien se demande comment il a pu mettre en place des choses aussi brutales et liberticides et être aussi populaire. Encore une fois, il a été élu une fois, il a fait la déportation des Indiens au grand dam de beaucoup d'opposants à ceci. Il était pro-esclavage, il y avait des abolitionnistes aux États-Unis à ce moment-là, mais il a été réélu. Il a été soutenu de la même façon que Trump, Donald Trump, a été réélu. Et c'est une des questions, un des mystères, bien sûr, une des questions historiques auxquelles se confronte Stephen Hahn. Je parle d'Andrew Jackson parce que lorsque Donald Trump va arriver à la tête des États-Unis en 2017, il va mettre fin à une demande populaire qui était faite depuis très longtemps, à savoir de remplacer le visage de Andrew Jackson, et oui, sur le billet de $20 des États-Unis, par le visage de Harriet Tubman. Andrew Jackson était donc un esclavagiste. Il a procédé à des actes qui relèvent des violations de droits de l'homme les plus patentes, mais bien sûr, ça ne plaît pas à beaucoup, ça ne plaît pas à tout le monde aux États-Unis. Et beaucoup d'Américains ont pétitionné pour que Harriet Tubman, une célèbre militante anti-esclavagiste, soit elle la figure qui apparaît sur le billet de $20. Elle était née le 6 mars 1822, elle est morte en 1913. C'est une grande héroïne de la lutte contre l'esclavage. Alors je vais terminer en évoquant justement une de ces conséquences de l'illibéralisme en citant une autre femme, la troisième femme. Et cette troisième femme, c'est Jennifer Vasquez Sura. Jennifer Vasquez Sura est l'épouse de Kilmer Abrego Garcia. Kilmer Abrego Garcia a été capturé par des officiers d'immigration américains et envoyé, on dit déporté en anglais, deport, envoyé dans une prison de haute sécurité au Salvador. Et bien sûr, comme beaucoup savent, ça a été rapporté en France également et dans d'autres médias du monde, Quilmán Abrego García n'a fait l'objet d'aucun due process. Il n'a pas fait l'objet d'un jugement. Il n'y a pas eu de jugement du tribunal. Donc la sphère judiciaire n'a pas été impliquée. Or, Quilmán Abrego García fait l'objet d'une campagne pour sa libération, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune preuve formelle qui a été fournie de sa culpabilité et de tout ce qui pourrait justifier qu'il soit aujourd'hui en prison au Salvador. Son épouse, Jennifer Sura, et lui sont en lutte. Et il y a eu un jugement de la Cour suprême extrêmement défavorable à l'administration de Donald Trump. C'était 9 voix contre 0 en faveur de l'inconstitutionnalité de la procédure qui a amené Quilmán Abrego García en prison, donc au mépris de la Constitution. Ce qui rappelle un peu la façon dont Andrew Jackson a opéré lorsqu'il a ignoré le droit constitutionnel sur le déplacement forcé des Indiens. Pour l'instant, l'administration présidentielle de Donald Trump refuse de reconnaître l'inconstitutionnalité du sort qui est réservé à Quilmán Abrego García. Sa femme, Jennifer Vázquez Sura, continue à se battre. Et il y a quelques heures, l'administration du gouvernement des États-Unis a publié l'adresse personnelle de Jennifer Vázquez Sura, ce qui fait qu'elle est dans l'incapacité maintenant de vivre dans sa propre maison, menacée qu'elle est après que l'administration américaine ait publié son adresse.
California, to my sweet home.